c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, c'est un épisode interview où je reçois Stéphane No. Stéphane qui vient nous parler de méditation au travail, plus largement de pleine conscience dans le milieu de l'entreprise et en l'occurrence, puisque nous sommes chez Bien dans ta boîte, des entrepreneurs. Stéphane, il pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Il est aussi contributeur à Petit Bambou, qui est une application qui est très très connue en méditation. Peut-être que tu la connais. Il est instructeur de pleine conscience MBSR. Il va nous expliquer dans le podcast ce qu'est ce programme, et il est en plus coach professionnel certifié, conférencier, auteur et j'ai même envie de dire un peu serial entrepreneur puisqu'il a monté 7 entreprises au cours de sa carrière. Il va t'expliquer son parcours dans le début du podcast, comment est-ce qu'il en est arrivé à la méditation, comment la pleine conscience a littéralement clairement changé sa vie et comment il a découvert à ce moment-là sa mission de vie et le changement professionnel que ça implique. Il va nous parler donc de son parcours, il va aussi nous parler bien sûr de ce qu'est la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment on pratique? Comment on s'y met? Quelles sont les bonnes astuces, entre guillemets, pour s'y mettre? Surtout, qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans ton quotidien d'entrepreneur, de pratiquer la pleine conscience? Stéphane, je le reçois suite à avoir reçu son bouquin « Je médite au travail 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience » aux éditions Viber. Je profite pour remercier son éditeur de m'avoir envoyé son bouquin. Ce bouquin, eh ben écoute, il est vachement bien parce que il y a ce côté en fait auto-coaching justement. Donc on n'est pas sur un énième bouquin qui t'explique en long, en large, en travers ce qu'est la pleine conscience et le pourquoi du comment, etc. C'est un bouquin très pragmatique, entre guillemets, très pratico-pratique, avec 10 séances d'auto-coaching, donc avec des clés, des explications, des tests, des exercices, des choses à mettre en pratique, etc. Et sans être exhaustive, il va te parler ben, évidemment de pleine conscience, il te parle des attitudes à cultiver. Il te parle beaucoup de communication, de relationnel, d'écouter l'autre en conscience, de cultiver des relations, de déjouer les conflits dans la sérénité, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans son bouquin et qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc sans plus tarder, je te mets dans la description le lien pour te procurer son livre si ça t'intéresse et je te laisse tout de suite avec l'interview de Stéphane. Bonjour Stéphane, merci de venir dans le podcast de Bien dans ta boîte aujourd'hui pour parler de pleine conscience et parler de ton nouveau bouquin qui s'appelle « Je médite au travail, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience ». Vaste sujet qu'est la pleine conscience, en l'occurrence là sur le sujet du travail, donc on va parler de ça pendant un moment. Eh ben écoute, déjà merci d'être là et puis je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis ton parcours dans les grandes lignes?
Oh là, bah ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, voilà, moi je suis méditant depuis 20 ans à peu près, un peu plus maintenant. J'ai vécu comme beaucoup de monde des turpitudes de la vie, dont une dépression, la liquidation enfin, des entreprises que je dirigeais, un divorce, et tout ça à peu près dans une échelle de temps de 2 ans. Donc ça a fait beaucoup. J'avais rencontré la méditation avant, et quand tout ça en fait s'est produit, je me suis rendu compte de la vraie puissance en fait de cette pratique, qui m'a vraiment aidé à sortir des ornières dans lesquelles mon esprit me mettait et dans lesquelles les situations difficiles que j'avais rencontrées étaient difficiles à surmonter précisément. Et donc j'ai continué mon chemin. Je te parle de ça il y a 10 ans. À peu près. Je travaillais à l'époque dans la communication, j'avais déjà créé plusieurs entreprises, trois entreprises dans le domaine du conseil en communication. Mais j'avais toujours été marqué, avant ces épisodes-là, par l'importance de créer du lien, d'enrichir du lien, de donner du sens à la relation, d'être authentique dans la relation. Et ça a toujours été quelque chose qui était au cœur de mes interventions avec mes clients à l'époque. Mais voilà, bon, donc ces événements sont arrivés, et puis je suis ensuite parti au Cambodge pour vivre plusieurs années. En fait, j'ai vécu 3 ans là-bas, et j'ai eu l'occasion de travailler non seulement avec des ONG, mais aussi de créer des entreprises solidaires, où j'ai pu mettre en place des projets dans lesquels les personnes des villages dans lesquels on intervenait pouvaient travailler. et ainsi nourrir leur famille. Et donc là aussi, je cherchais à nourrir du lien, à croiser les cultures, à faire que les gens se rencontrent et puissent se développer et grandir ensemble. Et quand je suis revenu en France, c'était en 2013, fin 2013, ben voilà, donc j'avais plus de boulot, j'avais plus de logement, j'avais plus de famille, enfin j'avais de la famille, mais j'étais divorcé, et j'avais plus d'argent. Et ce qui s'est passé était très étonnant en fait, et ça a été une des, pour moi, une révélation, c'est que je me suis retrouvé devant une feuille blanche en me disant, ben, non pas qu'est-ce que je vais trouver comme boulot pour vivre, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait. Et ce que j'avais envie de vivre, bah, c'était d'apporter une contribution au monde, qui soit une contribution apaisée, une contribution dans laquelle on peut trouver de la bienveillance, de la joie, de l'unité, enfin en tout cas de la solidarité et de l'unité. Et donc sur mon papier, bah, j'ai écrit, je veux enseigner la pratique de la méditation, qui m'a sauvé la vie. Et partant de là, en fait, si effectivement cette pratique m'a sauvé la vie, bah, je me suis dit que ça pouvait sans doute aider d'autres personnes à aller mieux. Et je me suis rappelé de mon parcours d'entrepreneur et de mon parcours en entreprise aussi, puisque j'ai été aussi salarié. Je me suis rappelé de la souffrance au travail, je me suis rappelé de la santé mentale qui était nécessaire de préserver et de prendre, enfin voilà. Et je me suis rappelé surtout qu'on ne peut pas être un bon dirigeant ou un bon leader ou un bon manager si on ne prend pas soin de soi et si on ne prend pas soin des autres qui sont nos. Comment dire, qui font partie de notre communauté en fait tous les jours de la semaine quand on travaille. Voilà. Et donc j'ai mis en place bah, des premiers protocoles, des premiers programmes de méditation. Puis ensuite je me suis formé comme instructeur MBSR. Donc MBSR c'est un acronyme anglais qui veut dire en français réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et en fait, cette formation m'a permis d'enseigner en fait ce protocole, de continuer à travailler avec des entreprises sur la mise en place de la formation, enfin de pardon, la mise en place de la pleine conscience en fait en entreprise, au service du management et du leadership. Mais ça suffisait pas, et comme je suis très curieux et que j'adore me former et que j'adore apprendre des nouvelles choses. Je me suis aussi formé comme coach et je suis aussi coach professionnel certifié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'accompagne les entreprises vers, comment dire, enfin, en tout cas, les dirigeants et les managers vers une posture plus authentique, plus porteuse de sens, plus porteuse de lien, et de mettre en fait toute cette énergie-là au service du bien commun. Le bien commun pouvant être simplement l'autre avec qui on partage quelque chose, les autres, la communauté de l'entreprise, mais aussi l'entreprise et le lien qu'elle a avec le monde. Et il me semble que notre engagement d'humain, au-delà de nos postures professionnelles, est un engagement qui est un engagement de conscience, en fait. C'est de faire en sorte que on aille bien, que les autres aillent mieux, que le monde aille mieux. Et je dirais en résumé aussi, peut-être. Enfin, c'est difficile de faire un résumé d'une expérience de méditation de 20 ans, mais il y a quand même une chose qui me frappe, c'est si je vais bien, le monde va mieux. Voilà. J'ai envie de résumer ça comme ça, et donc moi j'ai envie de faire en sorte que les personnes se connaissent mieux, grâce en particulier à la pleine conscience, mais qu'ils puissent aussi avoir une meilleure qualité de relation, une meilleure gestion de leurs émotions aussi dans la relation, et que finalement il y a une capacité d'engagement plus forte. Bah, au service du collectif et au service du monde.
Wow. Alors, sacré parcours. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de rester dans le monde professionnel, d'accompagner les entrepreneurs, oui, les entreprises, les managers et pas la sphère privée, par exemple?
Alors, je fais aussi de l'accompagnement individuel privé, ça m'arrive. Je le fais, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'on était plus centré sur l'entreprise, mais j'accompagne des personnes individuellement sur des changements de vie, des transitions ou des mal-être ou des difficultés relationnelles. Voilà, mais tout ça passant aussi par la gestion du stress et des émotions. Mais en entreprise, en fait, bah, y a plusieurs choses. D'abord, je suis plutôt du profil serial entrepreneur, parce que j'ai créé cette entreprise, donc j'adore en fait entreprendre, et j'adore en fait cette vitalité en fait qu'on trouve dans l'engagement entrepreneurial. On trouve un engagement à peu près d'une même nature, je m'en suis rendu compte depuis longtemps en fait, en intervenant avec des clients. On trouve en fait cette même qualité d'engagement ou quelque chose d'assez similaire en tout cas dans le management et dans l'acte de manager, d'animer ou d'entraîner, voilà, de créer un mouvement pour que les personnes puissent y adhérer et suivre et s'engager. Donc voilà. Et puis bah voilà, parce que ma mission aussi, c'est de contribuer à un monde plus apaisé, plus bienveillant et plus solidaire. Et il me semble que l'entreprise est un terreau extraordinaire pour mettre ça en œuvre. Et puis peut-être le troisième point, c'est que si on considère, enfin moi je considère que c'est très important, ça fonde quand même ma dynamique de vie et d'action, de diffuser en fait les pratiques de pleine de conscience, de présence à soi, à l'autre et au monde. Bah, il me semble que un dirigeant a une résonance très forte sur toutes les équipes qui l'entourent. Et donc, en fait, j'ai là des personnes qui sont capables aussi de diffuser ça. À tel point que j'ai créé, en fait, il y a 2 ans maintenant, une formation de facilitateur de pleine conscience, en fait, qui permet de s'initier à la pratique et puis de s'initier surtout à la transmettre. On vient de terminer une session là avec un groupe de 12 personnes, dont la plupart étaient des managers ou des coachs. Et c'était très intéressant parce que c'est donc des personnes qui vont pouvoir, par leur propre posture et par la facilité qu'ils auront maintenant à pouvoir proposer des pratiques, bah, les proposer à leurs équipes.
Ok, super. Alors, depuis le début, du coup, tu nous parles forcément beaucoup de pleine conscience. Comment tu pourrais expliquer ce qu'est la pleine conscience à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui sont pas très au clair avec ce qu'est la pleine conscience?
Ben, c'est assez simple en fait. C'est une question de présence. C'est une question de présence à soi. Je ne sais pas si tu as remarqué ou si peut-être les auditeurs, enfin j'espère, j'imagine que les auditeurs vont s'y retrouver. 50% du temps qu'on passe, on le passe à penser à autre chose que ce qui est en train de se passer. Et il y a beaucoup d'études qui convergent dans ce sens-là. Un autre chiffre, c'est qu'on a entre 60 et 100 000 pensées par jour. Donc en fait, sur 16 heures de temps vraiment éveillé, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de pensées. Mais sur ces pensées-là, il n'y en a que 20% qui sont vraiment contributives de notre vie, de notre bien-être, de notre santé, de décisions qui sont saines pour nous. Donc il y a bien cette question des conditionnements que nous avons, des habitudes mentales que nous avons, qui font que on est bien souvent en pilotage automatique, et que ce pilotage automatique ne nous sert pas. Enfin, ne nous sert pas, ne nous fait pas de bien, quoi. On est dans un processus mental qui vise à toujours amener une réaction à une situation, même si la situation ne demande pas de réaction, et que cette réaction est toujours du même ordre, que la situation est différente. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre du non-sens, mais dont on ne s'en rend pas compte, parce que c'est dans le non-conscient, en fait. Et donc c'est OK, quoi, je veux dire, ça va. Et donc en fait, la pleine conscience, ben, ça nous invite en fait à nous arrêter et à regarder ça, et à prendre conscience qu'il y a tout un tas de manifestations en fait de notre tête, de nos pensées, de la construction qu'on amène sur les situations, des histoires qu'on fabrique, voilà, qui ne sont pas ajustées avec non seulement qui nous sommes, mais aussi ce qui se passe. Et donc en fait, quand on n'est pas ajusté à qui nous sommes, et quand on ne comprend pas ce qui se passe, ou quand on ne voit pas ce qui se passe, quand on met les deux en relation, bah, on est à peu près sûr que ça ne marche pas. Donc, la pleine conscience, enfin, il y a une définition très simple, c'est de porter son attention à soi, dans l'instant présent, de manière volontaire et sans jugement. Voilà, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un temps de pause régulier qu'on s'offre volontairement, enfin, pour porter volontairement notre attention à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons au moment où nous le vivons, comment nous faisons l'expérience du moment présent, comment nous entrons en relation avec les situations et avec nous-mêmes dans ces situations-là. Et on va cultiver là différentes attitudes, dont une très importante qui est celle de non-jugement, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas évaluer ce qui est en train de se passer comme, par exemple, on fait d'habitude, c'est agréable, c'est pas agréable, c'est noir, c'est blanc, il faut pas. Donc dans cet esprit très duel, hein, très binaire, notre esprit adore ça. C'est une mécanique de protection, hein, pour nous. Mais en fait, le chemin, il n'est jamais d'un côté ou de l'autre, il est toujours entre les deux quelque part. Mais tant que notre esprit veut voir blanc ou noir, eh ben c'est blanc ou noir, mais ça ne peut pas être gris, quoi.
Oui, c'est un peu la voie du milieu des bouddhistes.
Exactement, exactement. Mais moi, j'ai beaucoup pratiqué la méditation bouddhiste, mais disons que c'est très, enfin, pour moi, c'est toujours très nourrissant. Je continue de la pratiquer, mais celle que j'enseigne, c'est pas celle-là. Celle que j'enseigne, c'est la pleine conscience, qui est une pratique laïque et qui ne fait pas référence en fait à des traditions particulières, ni spirituelles, ni mystiques, ni religieuses, de quelque ordre que ce soit. Parce que, en fait, je dirais que la question en fait de la pleine conscience, ou la question de la présence plus généralement, elle existe depuis que l'homme est homme. Hein. Il y a des traces. C'est intéressant parce que dans certaines grottes, alors je ne sais plus où c'est, si c'est dans le Périgord ou. Enfin bon, peu importe. Il y a des dessins de contemplation. C'est quand même intéressant qu'il y a 60 000 ans, l'homme méditait déjà. Donc, on n'est pas en train de créer un truc de mode pour dire il faut méditer, c'est tendance, voilà, et ça va durer 2 ans, puis après on passera à une autre mode. En fait, on est sur quelque chose qui est profondément, d'abord, ancré en nous. La présence, c'est une question juste d'être là, en fait, hein. Donc, y a pas, c'est pas très. Ça, c'est extrêmement simple et fondamental, en fait, dans notre existence, c'est essentiel. Mais en même temps, on voit bien que le monde tel qu'il évolue ne nous invite pas à nourrir beaucoup de paix. On voit bien hein, les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, que ce soit le défi de la paix dans le monde qui se durcit dans tous les sens. On a encore eu quand même quelques grosses frayeurs lors des dernières élections présidentielles. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une angoisse en fait par rapport à ça. Le changement climatique, le Covid, les instabilités politiques dans tous les sens. On voit bien que rien en fait n'est stable. Ça, c'est normal, c'est la vie, mais que on est confronté en fait à cette instabilité de manière beaucoup plus forte aujourd'hui. Donc, on a besoin en fait de présence. Parce que dans cette présence, on trouve de la stabilité, on trouve de la clairvoyance, on trouve du discernement, justement en cultivant le non-jugement.
Bah justement, tu parlais de peut-être dans la tête de beaucoup de personnes, méditation, ça peut sonner rapidement, yoga, bouddhisme, etc. Et justement, une question que je voulais te poser, c'est quels sont les préjugés en fait que tu rencontres le plus souvent quand tu parles de pleine conscience, en l'occurrence de pleine conscience au travail. Mais alors, j'imagine qu'il doit y avoir celui-ci, peut-être une espèce de peut-être des fois un peu de méfiance, peut-être un peu fort, mais de réticence sur le côté spirituel et religieux. Donc tu nous as expliqué que là, on était dans des pratiques laïques. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que tu rencontres souvent?
C'est beaucoup des préjugés autour de ne rien faire. Alors ça, c'est très fort en entreprise. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu, et je comprends, hein, vraiment, je comprends tout à fait que ça puisse résonner de cette manière-là. Hein. Mais un dirigeant me dire, à la proposition en fait d'un programme de quelques séances de pleine conscience, justement sur des questions de stress, la personne était convaincue en fait que c'était efficace. Mais son argument majeur pour ne pas travailler avec moi et ne pas monter en fait ce type d'activité, c'était je vais quand même pas payer les gens à rien faire. Mais alors, je comprends et en même temps, c'est voilà. Donc je rencontre souvent ce genre de choses parce que en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait effectivement, l'invitation quand on se pose sur un coussin ou sur une chaise. Et qu'on ferme les yeux et qu'on est juste guidé par une voix pour simplement ramener notre attention à plus de présence à ce qui est en train de se passer, rien de plus que ça, c'est ne rien faire. C'est-à-dire que, autrement dit, c'est ne pas produire quelque chose, c'est ne pas directement contribuer à un livrable. Ok. Donc ça, c'est effectivement dans le processus, il y a ce moment où on ne fait rien. Mais ce qui est démontré, et c'est pas très compliqué parce qu'il suffit d'en faire l'expérience, c'est que dès l'instant où on est agité, on est moins performant. Dès l'instant où on est en stress, on est moins performant. Dès l'instant où on a une difficulté relationnelle, on est moins performant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Parce que la difficulté là, c'est qu'on ne peut pas s'autoriser. Parce qu'on estime qu'on n'a pas le droit, parce que c'est pas dans les codes, parce que précisément on n'est pas payé à ne rien faire. On est payé pour faire quelque chose, donc il faut produire son temps est un temps productif. Et bien quand on s'arrête, on a l'impression de plus rien faire, et donc de plus rien produire, donc du coup de plus être efficace, donc du coup on ne mérite pas ce qu'on gagne. Ce qui est absolument faux. Parce que le simple fait de faire une pause, et ça a été démontré mille fois, c'est que le simple, de faire, le simple fait de faire une pause dans au cœur de la tempête nous permet d'être beaucoup plus attentifs, concentrés, engagés et performants ensuite. Donc on a besoin de temps de ressourcement. Et c'est un peu une folie, en fait, c'est une gentille folie, hein, je ne dis pas ça sous forme méprisante du tout, hein, pas du tout, parce que, encore une fois, je comprends. Mais je comprends parce que le système est organisé comme ça. Mais dans le système, on ne peut pas être continuellement efficace, plus efficace, encore plus efficace, si on n'a pas des moments de ressourcement. Ça n'est pas possible. Et d'autre part, si on ne le fait pas, eh bien on se prive en fait de nos plus belles ressources. On se prive, en fait, on force le mouvement. Voilà, et jusqu'au moment où en fait où le mouvement ne peut plus se faire parce qu'on n'a plus l'énergie. Et donc c'est dommageable en plus. Voilà. Donc j'entends beaucoup ce ne rien faire et je profite de cette occasion pour dire mais finalement si on démonte en fait ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un peu comment dire contradictoire et très paradoxal de dire bah je veux ça mais en même temps je vois bien que je peux pas y arriver. Mais je ne m'autorise pas à y arriver non plus. Donc, enfin, voilà. Donc, on tourne dans une boucle qui est une boucle qui est très très dommageable à la personne. Voilà. Donc, j'entends souvent ça. Et puis, d'autres choses plus personnelles, comme je vais être ridicule. Voilà. Ouais. Si je m'arrête, je vais être ridicule. Moi, je dis, c'est une bonne occasion de travailler le non-jugement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que je pense n'est pas ce que pense l'autre. Donc, c'est vrai dans l'autre sens aussi. Et c'est pas parce que je m'arrête à un moment que je m'isole pendant 10 minutes ou 5 minutes même pour faire un petit exercice de respiration ou un petit exercice de météo intérieure pour me ressourcer précisément, que les autres vont penser moi que je suis complètement ridicule. Ça c'est moi qui pense qu'ils vont penser que je vais penser ça et donc vous voyez donc en fait là, tu vois le système mental en fait est sans fin et aboutit à quelque chose de complètement absurde. Et surtout, encore une fois, là aussi, dans ce sens-là, dommageable.
Oui, il y a une vraie notion de déconditionnement, de déprogrammation, finalement, que ce soit dans la capacité de non-jugement, dans la diffusion cognitive, dans l'esprit du débutant. Tu expliques toutes ces postures, entre guillemets, au début de ton livre, qui sont les postures nécessaires, entre guillemets, pour pratiquer cette pleine conscience. Et finalement, on retrouve là-dedans cette idée de se déconditionner et de ne pas partir tête baissée dans ces schémas mentaux, finalement.
Oui, oui, c'est ça, avec discernement. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est vraiment très intéressant, parce que quand on est agité, on perd notre capacité d'être dans le discernement. Et quand on n'est plus dans le discernement, c'est plus difficile de prendre des décisions ou de faire face à des situations difficiles. Ça, c'est très simple à comprendre. Et donc, cette question des conditionnements, elle est au cœur. Tu as tout à fait raison de le mettre en avant. Elle est au cœur de ça. Mais il y a des conditionnements qui nous servent. Il y a des conditionnements qui nous protègent. Donc, ceux-là, il ne s'agit pas de les enlever. Parce que sinon, on se retrouve un peu tout nu. Et puis, là, on se met en risque, en fait. Au moins émotionnellement, peut-être que même physiquement. Donc, la question, elle est plus, je vais reconnaître mes conditionnements. Et je vais, dans ces conditionnements, vérifier ceux qui me sont utiles et ceux qui sont non utiles ou nuisibles, si je peux dire ça comme ça. Et à partir de ça, et on a des exercices hein, là-dessus, c'est très intéressant, et des pratiques, pour justement repérer ça. Et quand on se rend compte que finalement, ce qui nous entraîne toujours dans les mêmes réactions de stress, hein, la fuite, le combat ou la sidération, sont à peu près toujours les mêmes conditionnements, et ils naissent à peu près toujours des mêmes conditions, on voit que le processus, en fait, il peut changer. Parce que du coup, comme on le voit, ce processus, eh ben, il y a des éléments qu'on peut commencer à changer un petit peu. Et le simple fait de changer un tout petit peu quelque chose dans l'attitude, dans l'écoute qu'on a des événements, ou dans l'écoute de l'autre, dans la non-interprétation, par exemple, le non-jugement, ou dans la curiosité qu'on peut amener à quelque chose, ben, d'un coup, le processus change. Et c'est intéressant. Et donc c'est comme ça qu'on, nous, dans notre jargon de pleine conscience, on appelle ça de passer de la réaction à la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans très souvent en fait conditionné à réagir, y compris d'ailleurs quand les situations ne nécessitent pas de réaction. c'est quand même très intéressant. Et du coup, à vouloir changer quelque chose alors qu'il n'y a rien à changer du tout la plupart du temps, et qu'en plus on ne peut rien changer puisque la plupart des choses qui nous sont qui nous arrivent en fait sont pas liées à nous. Donc nous on ne peut pas changer le fait que le bus arrive en retard pour aller au travail, quoi. Il arrive en retard. Donc j'ai beau pester parce que le chauffeur de bus n'a pas fait son boulot, ou parce que je sais pas quelle compagnie de bus n'a pas fonctionné, ou parce qu'il y a des embouteillages ou des travaux et que franchement ça me pénalise, grosso modo en fait on réagit à quelque chose, mais finalement il n'y a pas de changement. Donc c'est inutile, et cette énergie là est bien plus intéressante si on la canalise sur comment je peux prendre soin à cet instant et qu'est-ce que je suis en mesure de faire dans les possibilités du moment pour faire que cet événement ne soit pas pénalisant pour moi, par exemple. Voilà. Mmh. Et c'est là où on passe de la réaction à la réponse, c'est-à-dire qu'on cesse, par une observation fine de nos réactions, par nos conditionnements, et on va vers une réponse avec ce temps en fait de pause que nous prenons et qui nous permet de reconnaître ce qui est en train de se passer et des ressources disponibles au moment où ça se passe.
Alors, ça me fait penser ce que tu dis. J'aimerais bien ton avis là-dessus. Il y a 2 ans, quand je faisais mon professorat de yoga, j'ai eu un débat avec une collègue de psy positive. Alors, on parlait plutôt de méditation bouddhiste pour le coup, donc il y avait beaucoup cette notion du détachement. Et je me faisais la réflexion, dans quelle mesure le fait de prêcher ce détachement, par exemple, voilà, le bus arrive en retard, bon, ça me casse les pieds, etc., je m'en détache, ok. Dans quelle mesure ce détachement, peut-être à outrance, il pourrait pas mener à une forme de négation émotionnelle, tu vois, où finalement, par exemple, je vais ressentir de la colère, je suis en colère contre, je sais pas, moi, ma femme, mon mari, mes enfants, et puis je me dis, oui, mais non, il faut que je me détache, il faut pas que l'ego prenne la place, etc., je reviens dans la conscience, machin, mais du coup, peut-être que là, je ne vis pas, à ce moment-là, mon agacement et ma colère. Comment on fait la différence entre le fait de vivre en conscience, de ne pas juger la situation, de savoir aussi s'en détacher de ses conditionnements, etc., et ne pas tomber dans une forme de négation émotionnelle.
Mmh. Ouais, je comprends. Moi, je ne suis pas très adepte du mot détachement, en fait. Précisément parce que plus on est détaché, plus on est entraîné dans ce que tu exprimes. C'est-à-dire dans une forme de distance tellement loin, tellement grande, que finalement on n'est même plus conscient de ce qui est en train de se passer. Voilà. Ni en soi, ni dans la situation. Voilà. Donc ça peut aider à très court terme dans certaines situations dangereuses, par exemple, où on a besoin d'être protégé. Et bien sûr, là, on a besoin de sortir du jeu pendant un moment pour y revenir ensuite, parce qu'effectivement c'est dangereux. Enfin, ça ne nous arrive pas très souvent. Donc la question, en fait, et ce que nous dit la pratique, en fait, par l'expérience de la pratique, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas une théorie, c'est juste que le constat qu'on fait quand on pratique, c'est que précisément, on ne se détache de rien, mais on ne s'attache plus à rien non plus. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit tout passer, en restant acteur de ce qui est en train de se passer, mais dans la justesse de la situation et pas dans l'illusion que le mental crée à partir de cette situation. Si je reprends mon exemple du bus qui arrive en retard, ce qui est un exemple assez courant, malheureusement, mais on peut prendre n'importe quelle autre situation dans la vie quotidienne professionnelle, hein. c'est avec un collègue de travail, avec le repas qui arrive froid à la cantine de l'entreprise, avec une réunion qui se passe mal, bon, enfin, je veux dire, c'est tout à fait transposable. Donc si on reprend cet exemple-là du bus qui arrive en retard, le détachement, ça serait de dire, oh là là, bon, bah, il arrive en retard, mais c'est pas grave, allez, c'est mon karma, je suis zen, tout va bien, je n'ai pas d'émotion, on m'a dit, parce que je pratique la méditation, que ça va aller, que l'avenir sera meilleur, enfin bon, bref, tous ces trucs-là, en fait, ça n'a aucun sens. C'est précisément ça où, finalement, on rentre dans la négation de l'événement, de la situation et de l'expérience elle-même, on s'extrait de ça comme si on était un simple observateur, et puis qu'on n'était pas concerné. Le problème, c'est que le bus arrive en retard, moi je dois monter dedans, je dois aller au boulot. Donc je suis concerné. Et je suis en train de le vivre. Donc, et de l'expérimenter. Donc je ne peux pas être dans le détachement. Mais par contre, le non-attachement, c'est, par exemple, le bus, il devait arriver à 8h25, il est 8h26. Ça n'est pas normal. Donc je suis attaché à l'idée que ça doit être comme ça, et pas autrement. Voilà. Et du coup, en fait, cet attachement-là demande en fait beaucoup de soins, parce que c'est en le repérant qu'on peut rentrer dans le non-attachement. Ah oui, mais je repère que je suis très attaché finalement au fait que les choses soient en ordre et qu'il n'y a rien qui doit dépasser. Voilà, ça doit se passer comme ça, et parce que de toute façon c'est comme ça. Ah, très bien. Mais si ça ne se passe pas comme ça, il se passe quoi? Il y a un problème. Le problème, c'est une tension qui se crée et qui crée une réaction, précisément. Et donc, si ça arrive, la pleine conscience, ça c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est je constate que c'est pas comme je crois, et je me dis, ah, c'est intéressant, je repère que je suis attaché à l'idée que ce soit comme ça. Bon, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est, ah, je repère que ma réaction, c'est ça. Je suis traversé par la colère. C'est ok, il y a de la colère, super. Je ne suis pas cette colère, je suis simplement dans une situation où la colère me traverse. C'est un peu différent déjà de le regarder comme ça. Tu vois, c'est ça en fait. Et donc, ce non-attachement, c'est de se dire, bah tiens, il y a des vues auxquelles je suis attaché, eh bien, je vais me désattacher, si je peux dire comme ça, et je vais essayer de cultiver ce non-attachement dans toutes les circonstances de ma vie, pour éviter de monter dans les tours à chaque fois, et pour éviter de rencontrer des émotions désagréables, parce que c'est pas agréable, mais... Par contre, si ça arrive, c'est OK quand même.
Alors, comment ils peuvent, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent là, se mettre à la pleine conscience? Parce que j'en entends d'avance d'ici qui disent « j'ai pas une heure et demie à méditer sur mon canapé tous les jours » et j'imagine bien que tu vas pas leur conseiller un truc comme ça. Donc, comment on fait pour se mettre à la méditation, à la pleine conscience, quand on n'y connaît rien et quand on est dans cette peur de ne rien faire?
Ouais. Tu sais, oui, je vais répondre à cette question, mais juste sur ne rien faire, c'est intéressant, parce que ça renvoie à la peur du vide. Tu vois, il faut remplir. En fait, il faut toujours remplir quelque chose. Voilà. J'ai du temps devant moi, il faut que je le remplisse à faire quelque chose, ou à penser à quelque chose, ou à imaginer, enfin, voilà. Mon frigo est vide, il faut que je le remplisse, quoi. Alors que c'est ok que le frigo soit vide pendant 2 heures encore, c'est pas un problème, mais non, il faut quand même aller faire la course maintenant, parce qu'il y a une espèce d'angoisse à vivre quelque chose dans lequel c'est pas rempli. Bon. Bon, bref, donc là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais la seule chose que je peux dire juste à ce stade, pour être très, j'espère, simple, c'est de dire qu'il n'y a rien à remplir, parce que c'est déjà plein, en fait. C'est déjà plein. Le moment, le temps que nous avons à ne rien faire, c'est un temps plein, c'est pas un temps vide, c'est un temps merveilleux dans lequel on peut se retrouver. Donc c'est important, hein, parce que en entreprise, dans la culture de faire, et en plus de faire pour obtenir quelque chose, le moindre temps mort est considéré comme un temps perdu. C'est fou, enfin. Alors que ce temps perdu, c'est en fait un temps vécu. Je cite cette citation d'un manager, mais ça m'avait bouleversé, en fait. Il me dit, mais moi, je me suis rendu compte, après 2 séances ou 3 séances, je sais plus, il dit, mais je me suis rendu compte quand même que il n'y avait pas de temps de gagné ou de temps de perdu, il n'y avait que du temps vécu. Je me dis, bah dis donc, il a fallu 40 ans pour qu'il se rende compte que finalement il pouvait vivre sa vie. Donc c'est quand même... bah c'est pas rien, enfin moi je trouve que c'est pas rien. Alors, du coup, enfin, pour s'y mettre. Alors, il y a plein de façons de faire. Souvent, on commence par un CD ou un audio sur YouTube ou une application. Voilà, genre petit bambou. Super! Pour démarrer, c'est vraiment bien, parce que ça permet de se familiariser un peu, ça permet de voir à quoi ça ressemble, ça permet d'expérimenter. Donc très très bien. Mais très vite, ce dont je me rends compte, et ça je le vois, mais c'est juste mon expérience, hein, ce dont je me rends compte dans mes groupes, c'est que les personnes viennent en disant « Oui, mais alors moi, tout seul, franchement, c'est super difficile, quoi. Je n'y arrive pas, parce que je n'arrive pas à me fixer une discipline. » Donc, parce que ça demande de la régularité, hein, c'est comme un entraînement, un coureur de fond, donc ça demande de la discipline, et puis ça demande du temps, et je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Je dis très bien. Donc, la deuxième étape, ça serait, alors ça je parle sur un plan général, puis après on parlera de l'entreprise, mais c'est pour moi de rencontrer un instructeur de méditation, formé, sérieux, parce que il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, de gens un peu bizarres dans le métier. Voilà. Mais bon, enfin, donc faites appel à une association reconnue comme l'ADM ou la FEM, qui sont deux associations je suis président de l'AFEM, donc voilà, mais qui réunissent en fait qui fédèrent en fait des instructeurs de pleine conscience, qui sont formés, qui vérifient leur formation. On a de la formation continue, on a de la supervision. C'est un peu comme les coachs, hein, donc c'est pas juste, on s'assoit sur un coussin puis on dit trois mots, quoi. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, donc de rejoindre un groupe et si possible un groupe dans un programme séquencé, parce que c'est ce programme qui va vous donner je m'adresse aux auditeurs, qui va donner du rythme. Parce qu'on se voit toutes les semaines, pendant 8 semaines, donc c'est un engagement fort, on pratique tous les jours entre les séances, donc pendant 8 semaines, on se met dans une dynamique qui permet ensuite de continuer tout seul. Moi, je trouve que c'est vraiment une formule optimale. Et puis, une fois qu'on a fait ça, la troisième étape, c'est pas une question de niveau, hein, mais c'est une question d'étape, c'est entretenir la dynamique. Alors, non pas effectivement en méditant 45 minutes par jour, comme c'est le cas dans un programme MBSR par exemple, mais en s'accordant 10 à 15 minutes tous les jours. Et ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Et donc, il suffit d'avoir deux ou trois audios de base, et ça suffit. Voilà. Et là, on peut créer une routine quotidienne. Alors, en entreprise, c'est un peu plus compliqué, parce que en fait, objectivement, les agendas ne permettent pas de passer 2 heures, 3 heures par semaine de temps de travail. Et là, je comprends, hein, bien sûr. C'est pas tout à fait adapté. Donc, moi, ce que je fais, c'est en général que je propose des ateliers réguliers qui durent pas plus d'une heure, voire 45 minutes, soit en présentiel, soit en ligne. Et les personnes viennent, et donc il y a un temps de pratique et un temps d'échange, et toutes les semaines. Donc comme ça permet, à un moment où on a un petit peu de temps, de pouvoir s'accorder ce temps. Donc ça, c'est pour les ateliers en collectif. Et individuellement, vous avez, il y a 32 méditations dans le livre, il y en a 15 sur l'application Petit Bambou qui va avec, et c'est des méditations qui durent entre 5 et 20 minutes, sur plein de sujets différents, donc c'est facile en fait. De trouver comme ça 5-10 minutes par jour dans le temps de travail, ou 2 fois 5-10 minutes chaque jour dans le temps de travail, c'est tout à fait compatible. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter pendant 45 minutes sur sa chaise et puis attendre qu'il se passe quelque chose, mais c'est plutôt de permettre en fait d'ajuster le volume de sa pratique, le volume de temps en fait de sa pratique au temps disponible dans la journée.
Et alors pour les entrepreneurs, entrepreneuses là, qui nous écoutent, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent observer comme changement, comme bienfait, grâce à cette pratique régulière de pleine conscience?
En fait, plein. D'abord, un peu dans le désordre, parce que l'ordre n'a pas beaucoup d'importance, hein, mais d'abord sur le stress. Courir après les actions, courir après les clients, courir après les règlements des factures des clients. courir après le temps. Tout ça, en fait, génère beaucoup de tension et de stress. Donc, le premier effet, c'est effectivement une meilleure régulation du stress. Le stress est intéressant, hein, et utile, mais parfois, il est trop fort, et c'est là où ça devient problématique en fait, et que ça a des conséquences sur notre propre santé. Donc c'est déjà prendre soin de ce stress-là, c'est un premier point. Un deuxième, c'est la régulation des émotions. Là, assez clairement maintenant, ne plus faire de nos émotions difficiles comme, qu'on qualifie comme difficiles. Moi, je les nomme comme ça parce que on me les apporte comme ça en fait dans les groupes. Il y en a aucune qui est difficile en fait. Les émotions, elles sont plus ou moins vives. Et plus ou moins en relation avec des événements importants ou moins importants. Enfin bon. Donc en fait, c'est d'apprendre à se laisser traverser par les émotions plutôt qu'à faire des émotions un problème. Et ça, c'est un gros travail parce qu'effectivement, il y a des enjeux personnels en fait forts de questionnement en fait quasi identitaire en fait sur cette question-là, donc questionner aussi ses croyances. Mais quand on passe de oh je suis triste à oh je ressens de la tristesse, c'est un gros travail, mais ça change tout. Ça change absolument tout, parce que du coup on n'est plus dans le problème de la tristesse et de tout ce qui va avec. J'ai pas le droit d'être triste, c'est pas le droit d'être triste dans la norme de là où je suis, c'est pas vrai, c'est pas bon, etc. Et du coup c'est complètement incapacitant. Là on se remet en capacité en fait de vivre pleinement sa tristesse et d'ajuster sa réaction à la tristesse en fonction du contexte, et on reprend le pouvoir en fait par rapport à ça. Donc ça c'est quand même très important. Un troisième bénéfice en fait c'est dans les relations. C'est vrai que la pratique de la pleine conscience, en fait, est une pratique de paix. De paix avec soi, et de paix avec les autres, et de paix avec le monde. Mais vraiment, alors vous n'êtes pas obligé de me croire, mais franchement, si vous pratiquez, en tout cas si on pratique ensemble, vous allez voir que c'est très étonnant d'ailleurs. C'est que, en fait, ça amène de la fluidité, ça amène de l'écoute très profonde, en fait, de ce qui, de la personne, de l'autre, mais parce que ça commence par l'écoute de soi. Et du coup, on réapprend à s'écouter, à se réapproprier cette dimension de l'écoute pour être plus disponible pour l'autre. Donc ça nourrit en fait non seulement des interactions beaucoup plus fructueuses, fécondes et positives, mais ça nourrit aussi une relation plus solide et plus profonde. Et moi je le vois avec mes clients, hein, franchement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois, et ça fait une vraie différence, quand j'arrive de manière, comment dire, quand je me sens un peu stressé, un peu tendu, parce que voilà, la matinée, c'est pas passé, enfin, il y a eu plein de difficultés, etc., que j'ai pas réussi à surmonter, et j'arrive avec tout ça, en fait, dans le bureau de mon client, et je suis avec ça, et je vois bien qu'en fait, la relation, elle est plus difficile à nouer à ce moment-là. Et ça fait une vraie différence que quand j'arrive, ou que j'ai eu le temps, en fait, de prendre 10 minutes avant la réunion pour me poser en silence, pour juste être avec moi-même, respirer, prendre le temps, en fait, hein, de la pause, et de rentrer, même la façon d'ouvrir la porte n'est pas la même, et du coup, derrière, en fait, la relation se tisse tout à fait différemment. Donc ça, c'est sur la question de la relation. Et puis, ça a un effet plus large aussi sur... en fait, on cultive de la bienveillance, on cultive de l'empathie, on cultive de la compassion. C'est ce qu'on touche au fond dans la pratique de la méditation. C'est l'objet même, en fait, de notre pratique. Au fond, c'est pas du tout de résoudre notre problème de stress, c'est d'être en relation différente avec ce qui se passe et de créer de l'espace qui nous permette de nous relier à nos qualités les plus belles. Donc je parle, par exemple, de mon livre des princes et des princesses, je parle des relations basées sur le cœur. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant où on arrive à se relier à l'autre avec le cœur, ben, la relation est très féconde et comment dire, l'engagement, enfin, la capacité de mobilisation et d'engagement en fait des deux est extraordinairement plus élevée.
D'ailleurs, ça me fait penser, si parmi ceux qui nous écoutent, ils repartent de là un peu pas convaincus de « je vais pas arriver à rester assis ». Est-ce qu'on peut faire de la pleine conscience en mouvement, comme du yoga, de la marche en nature?
Absolument. En fait, il y a quatre grandes postures dans la pratique. La posture assise, donc là on peut être assis sur une chaise ou sur un coussin. La posture debout, oui, la posture debout en mouvement. Donc en fait, c'est les postures de yoga en fait, hein, c'est les postures de Hatha yoga. Donc posture très simple, on lève les bras, on trouve des positions d'équilibre, la posture du guerrier, etc. Mais de manière, on cherche pas à réaliser des postures, on cherche juste à sentir le corps qui se met dans ces postures et du coup se relier en fait au corps en mouvement, hein, donc, et à nos propres limites dans ce corps en mouvement pour accepter que nous soyons comme nous sommes. Voilà. Donc il y a effectivement ces postures en mouvement qui sont très intéressantes. Il y a les postures allongées. Voilà. Donc ça reprend en yoga Shavasana en particulier, mais pour ce qui est de la posture, mais c'est souvent les postures de balayage corporel ou de gratitude par rapport au corps et à la terre, et puis des postures en marchant, voilà, donc la marche, donc assise, en mouvement, enfin debout ou allongée en mouvement, d'ailleurs on peut être allongée en mouvement si debout c'est pas ok, allongée et allongée immobile et en marchant.
Ok, donc si parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a des angoisses à l'idée de rester assis, d'autres...
Oui, non, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques. Il y a des pratiques en fait où c'est recommandé d'être assis, et puis d'autres pratiques où c'est plutôt recommandé d'être allongé, par exemple. Donc en fait, ça dépend aussi un petit peu des pratiques. Mais globalement, on peut faire à peu près toutes les pratiques dans la posture allongée, debout, immobile ou assise.
D'ailleurs, question que je t'ai pas posée et peut-être que nos auditeurs auditrices se la posent, c'est quoi la différence entre la pleine conscience et la méditation?
Ça, c'est un vaste débat en fait. C'est plutôt un, enfin, pour moi, c'est plutôt un débat sémantique.
D'accord.
On va dire que la méditation, c'est le fait de s'arrêter et de porter son attention sur un objet, voilà, qui peut être interne ou externe, et de voir comment on est en relation avec lui, avec cet objet. Bon, la pleine conscience, c'est une manière particulière en fait de méditer, qui est une manière dans laquelle il n'y a pas de, en fait, où l'objet principal de notre attention, c'est nous-mêmes, est porté sur l'instant présent. Mais bon, honnêtement, je pense qu'il faut, il faut pas trop se... C'est pas que la question n'est pas juste, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus important d'expérimenter et puis de voir ce que ça donne, plutôt que d'essayer de savoir la définition de ça, de ça, de ça, des différents types de méditation, parce qu'il y en a, des centaines, hein, donc on n'a pas fini d'explorer, mais je dirais derrière la question, ce qui est intéressant en fait dans cette question-là, derrière la question, c'est un, que notre esprit cherche toujours à savoir et à comprendre, alors que dans l'instant présent, il n'y a rien à savoir et rien à comprendre. Quand on arrive à se détacher de ça, c'est intéressant, parce que ça nous désengage en fait le mental de j'ai envie de tout savoir, de savoir pourquoi, comment, les définitions, les mots qu'on utilise, d'être dans les codes, etc. etc. Et la deuxième chose, c'est que plus on sait, plus on juge. Et ça, c'est précisément intéressant de l'observer dans notre propre pratique. C'est j'ai envie de savoir pourquoi j'ai mal au dos, et donc je voudrais bien trouver un truc tout de suite qui m'apaise mon mal au dos. Voilà. Et donc on voit bien que là le mental enclenche dans il faut que je comprenne, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce moment-là? C'est que le mental essaye tellement de comprendre qu'il ne peut pas trouver en fait une solution adaptée à la situation. Et donc on bouge dans tous les sens, on essaie de trouver une solution qu'on ne trouve pas, et la douleur se renforce. Et ça marche à tous les coups. Et donc il suffit d'en faire l'expérience pour se convaincre que finalement, si on lâche le mental à ce moment-là, en se disant bon, ok, j'ai mal au dos, mais je vais plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi j'ai mal au dos et ce qui se passe et ce que je peux faire, je vais d'abord aller rencontrer cette douleur-là, voir comment elle est et essayer d'en prendre soin. Et après, on verra. Et voilà, c'est ça, en fait.
Alors, avant que je te pose ma traditionnelle question de fin, j'avais deux points sur le bouquin en tant que tel. Déjà, le premier point, c'est que j'ai trouvé que dans le bouquin, surtout vers la fin, il y avait beaucoup de choses justement en rapport avec le relationnel. Là où peut-être d'habitude sur la pleine conscience, on a les exercices, on a l'explication de ce que c'est, on a les applications sur le stress, comme tu en as parlé, sur les douleurs physiques, sur le sommeil, machin. Mais il n'y a pas toujours cet aspect relationnel. C'est très présent dans ton bouquin, c'est très présent dans ton discours aussi depuis le début de cet échange. Est-ce que ça vient justement de ce qui t'a amené à la pleine conscience, que ce soit si important pour toi le relationnel?
Je sais pas d'où ça vient, mais ce que je me dis en tout cas, c'est que nous sommes des êtres de relation. Voilà. Nous sommes des êtres de lien. Et donc, on a besoin de prendre soin de ces liens. Et dans quel cadre interviennent ces liens? Dans le moment présent. C'est-à-dire que nous sommes reliés et que finalement, toute cette histoire de pleine conscience, c'est l'histoire de la relation. La relation à soi, la relation aux événements, la relation aux autres. Ça n'est que des questions de relation. C'est qu'est-ce que je tisse par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de tisser? Et c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est que, tu as peut-être noté, en fait, le livre, moi je l'ai construit en fait en trois grandes étapes. Une première qui est plus, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience et à quoi ça peut me servir, et en particulier pour le stress? Donc ça, c'est beaucoup plus sur l'aspect individuel. Et donc toute cette grande partie-là va jusqu'à l'écoute de soi, voilà, pour rentrer dans la relation. La relation, en fait, c'est pas juste lui et moi, c'est lui, moi, nous, mais c'est moi d'abord. Voilà. Donc ça change un peu le prisme. Voilà, j'ai voulu montrer ça. Et puis ensuite, finalement, une fois qu'on entre dans la relation, qu'est-ce qui se passe dans la relation et comment est-ce qu'on peut être plus conscient dans cette relation-là. Parce que ce qui va être fécond dans la relation, ce qui va être nourrissant et ce qui va être mobilisateur au sens de créer un mouvement dans la relation, c'est bien l'écoute. C'est bien le fait qu'on puisse accepter d'être d'accord ou d'accepter qu'on ne soit pas d'accord, et d'être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, c'est OK, hein. C'est pas un problème. Mais tout ça, c'est une question de conscience. C'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, quels sont mes filtres. Et puis, si possible, j'ai essayé de mettre moins de filtres pour pouvoir entendre mieux. Et puis, finalement, si on veut cheminer ensemble, c'est quand même bien qu'on fonctionne sans filtres, quoi. Parce que sinon, c'est des filtres avec des filtres, et ça donne quoi? Ça donne des relations qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas très intéressantes, pas très nourrissantes, et en tout cas pas durables. Et en entreprise, on a besoin, précisément, que les relations soient nourrissantes et durables. Donc, j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. Et puis, la troisième partie, c'est les deux derniers chapitres, essentiellement, c'est plus sur le collectif. C'est finalement comment on peut vivre en pleine conscience, ensemble. Et là, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut amener, mais dans laquelle la pleine conscience est hyper importante et très comment dire, très soutenante, en particulier dans les conflits. Voilà. Aborder un conflit en conscience, c'est pas du tout la même chose que de l'aborder comme d'habitude. Comme d'habitude, on va essayer de régler le conflit, si possible en faisant appel à quelqu'un d'une tierce personne, un médiateur, parce que sinon on va pas y arriver et puis il y a trop d'enjeux. Bah oui, mais enfin, si on commençait par dédramatiser la situation, par savoir comment on se sent chacun dans le conflit, et puis qu'on commence à se parler en partant de là, comment ça se passerait? Bah, différemment. Et beaucoup plus rapidement, en plus. Donc c'est intéressant. Et puis après, c'est effectivement, dans comment dire, dans la vie de l'équipe, ou la vie d'un collectif, hein, si on prend ça, et si on est... référent en fait dans ce collectif, quel que soit le niveau de référence, facilitateur, manager, leader ou peu importe, c'est en fait de trouver des règles de communication ensemble qui nous vont bien, et en particulier moi une pratique que j'aime beaucoup, c'est la pratique du feedback et du feedback appréciatif, où on commence pas le feedback en disant écoute, franchement t'as merdé, c'est pas bien, donc il faudrait que la prochaine fois tu fais attention, parce que sinon attention. écoute, ce que j'aime particulièrement dans ce que tu as fait, c'est ça, mais il me semble, et ce qui aurait été soutenant pour que ça marche, ça aurait été ça, ça et ça. Est-ce qu'on peut en parler? Ben, c'est la même chose, mais alors l'effet n'est pas tout à fait le même. Hein. Voilà. Et donc, parce que ça rejoint beaucoup ce qu'on fait en coaching, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une question d'incapacitation, c'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver en pouvoir de décider ce que j'ai à faire, mais aussi autorisé à le faire. Et donc, si j'en sens en face que j'ai un pouvoir qui m'impose de le faire, bah, je ne m'autorise pas et je ne suis pas en capacité. Voilà. Et ça, c'est ça part de la présence à soi, à l'autre, à la situation, et puis aux différents enjeux qui se manifestent et qui peuvent s'exprimer en pleine conscience.
Justement, tu parles de coaching, je trouve qu'on retrouve bien la posture du coach dans la manière dont tu as construit le livre, parce que le fait qu'il y ait plein de petits exercices, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des évaluations de soi, etc., je trouve que c'est un côté très autonomisant. Bon, je suis pas sûre que ce soit bien français ce que je raconte, mais bon, ça me paraît intelligible.
Mais on comprend.
Voilà. pourquoi avoir fait le choix, du coup, d'un manuel d'auto-coaching et pas d'écrire un bouquin sur ce qu'est la pleine conscience?
Ah bah, y a deux raisons. Il y a une raison très simple, en fait. C'est que l'éditeur a créé une collection qui s'appelle My Happy Job, enfin, qui est super, hein, où les bouquins ont un format. Donc, ce format, c'est celui-là. C'est 10 séances d'auto-coaching. Et je dois dire qu'au début, ça me plaisait bien parce que je trouvais justement que c'était très concret, très pragmatique. Et moi, je suis assez concret et pragmatique. J'aime bien, en fait, quand les choses sont claires, que c'est posé, qu'on sait ce qu'on doit faire et qu'on est guidé pour. Donc, ce format me convenait bien. Et la deuxième raison, en résonance à la deuxième partie de ta question sur pourquoi pas un livre sur la pleine conscience en général, bah, c'est d'abord parce qu'il y en a plein, et que la plupart sont pas intéressants. Donc, j'avais pas envie de prendre le risque de pas être intéressant. bon, voilà, mais ça, c'est une petite plaisanterie, mais parce que en fait, il me semble que justement, on n'a pas besoin, et c'est un leurre, enfin une illusion que nous avons depuis qu'on est passé par l'école en fait. Hein, donc on n'y est pour rien. Hein, je juge pas du tout ça, mais je vois bien que on aime bien acheter des bouquins pour comprendre les choses. Alors par moments, ça peut être très utile et c'est même important. Hein, donc surtout, faut pas se priver de comprendre. Mais la pratique de la méditation, c'est d'abord de la pratique. C'est d'abord de l'expérience. Et si on... Moi, je il n'y a pas beaucoup de livres, hein, sur la méditation au travail. Franchement, il y en a vraiment pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, il y en a beaucoup qui intellectualisent, en fait. Ce que c'est, les preuves scientifiques, etc. Pourquoi pas? Moi, je me suis pas senti aller vers ça. Je me suis senti aller vers quelque chose en disant, ben voilà, essayez et puis voyez, quoi. Et donc, les exercices qui sont proposés, il y a une trentaine, une quarantaine d'exercices, en plus des méditations. Bon, ça permet justement de s'y mettre de manière très simple. Voilà, en quelques minutes, on voit de quoi on parle, on fait l'expérience et puis on voit comment on sent et c'est fait, quoi. Et je trouve ça plus utile parce que c'est plus opérationnel et parce que ça permet de démystifier aussi. La méditation, voilà, on pourrait, voilà, on a un tas de représentations, on en a parlé tout à l'heure, hein, on a un tas de représentations en fait sur la méditation, et puis on a l'impression que c'est pas compatible avec l'environnement de travail. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est complètement compatible et que c'est absolument nécessaire. Et donc, du coup, le format de ce livre répond quand même à ces invitations-là.
Donc maintenant, à la liste de Jon Kabat-Zinn et de Christophe André, on rajoutera Stéphane
Alors là, je serais vraiment flatté, mais je suis pas sûr quand même que je sois encore à ce niveau-là.
No. Bon, alors je vais te poser ma traditionnelle question de fin, question plus large que la pleine conscience, mais par ton expérience de praticien et ton expérience d'entrepreneur, je suis sûre que tu vas avoir plein de choses à nous dire. Quels sont tes conseils pour entreprendre heureux?
Alors, je m'y attendais pas à cette question. Il faut que je me replonge dans mes 7 expériences. Moi, je dirais, soyez vous-même. Incarnez ce que vous faites. Incarnez ce que vous faites. Ne cherchez pas à coller des choses qui vous correspondent pas. Faites quelque chose qui vous ressemble, quoi. Incarnez-le. Et puis nourrissez votre élan par bah, peut-être de la pleine conscience ou d'autres pratiques, hein, c'est pas la seule, mais voilà, prenez des temps de pause, d'introspection pour questionner non pas ce que vous faites, mais plutôt le sens de ce que vous faites. Ouais, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment autour du sens, autour de. J'ai accompagné, alors je vais terminer là-dessus, mais quand je travaillais dans le domaine de la communication, donc en 98, quand j'ai créé ma première agence de com, très rapidement après, en fait, j'ai eu des demandes de jeunes créateurs d'entreprise. C'était passionnant, enfin, parce que moi-même j'étais créateur, et donc j'avais à cœur, j'ai toujours aimé transmettre ce que je faisais, et donc je trouvais ça super que des jeunes créateurs, en particulier de la chambre de commerce, en fait, viennent me voir pour me dire, bah, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'un conseil, je suis en train de créer, voilà. Et donc je travaillais avec eux essentiellement, alors pas sur la dimension technique de l'entreprise, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, quoi, la compta, les aspects fiscaux, les statuts, etc. Vraiment, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui sont absolument experts là-dessus, mais pour moi c'est pas très vivant, c'est truc froid, hein, tout ça. Important, hein, mais c'est pas mon truc. Mais ce qui m'intéressait moi, c'est de les aider à faire en sorte que que leur projet et eux-mêmes puissent vraiment bien fonctionner ensemble. C'est-à-dire de rapprocher la personne du projet et quitte à prendre le risque d'attendre de créer parce que c'était pas ajusté. Et moi, je crois beaucoup à ça, en fait. Donc, et c'est vraiment ça. Et ça, c'était en 98. Hein, donc, j'ai pas. On est en 2022, donc ça fait un bail quand même. Et je suis toujours sur la même idée. Incarnez ce que vous faites. Et questionner le sens de ce que vous faites de temps en temps.
N'oubliez pas de faire des petits check-up.
Oui, c'est ça, mais des check-ups de sens. Pas tellement des check-ups de capacité technique, par exemple. Bien sûr, ça c'est important, hein, c'est-à-dire que les métiers évoluent et donc il faut qu'on reste au top en fait, de notre expertise. Donc ça, évidemment, mais c'est un prérequis, enfin, c'est une base. Mais En fait, c'est une question qui vise à ne pas s'oublier dans son projet. Il me semble que ça, c'est vraiment important. Parce que j'ai vu tellement, tellement de jeunes créateurs d'entreprises ou d'entrepreneurs indépendants qui, au bout de 2 ans étaient, ou 3 ans, étaient épuisés. Parce qu'en fait, ils couraient derrière leur projet, en fait. Et ce n'était pas eux, c'était pas. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé En fait, ils couraient tout le temps. Et ils n'arrivaient pas à se réajuster par rapport à leur projet qui avait changé. Parce qu'évidemment, entre le début et 3 mois après, ça a déjà changé. Puis alors 2 ans après, c'est souvent même presque un autre projet. Enfin, en tout cas, il a tellement changé de forme, mais qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes, en fait, à changer avec. Et donc, à force de s'adapter à l'extérieur, c'est-à-dire à la demande des clients, aux évolutions technologiques, etc., bah de vérifier qu'on est toujours en ligne, hein, on est toujours aligné, en fait, avec notre intention de départ et avec ce qui est en train de se passer, c'est vraiment important.
C'est un super conseil. Merci beaucoup Stéphane, ça me plaît beaucoup qu'on puisse conclure là-dessus. Un grand merci d'avoir répondu à mes questions,
de venir sur le
podcast de Bien dans ta boîte. Et puis, je fais un petit point après, une fois toute seule, sur le bouquin. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. À très vite.
Bah, merci à toi, merci pour ce temps partagé. Et puis, je suis ravi hein, si ces quelques idées, on pourrait en parler des heures, mais ces quelques idées puissent juste éveiller, allumer des petites lumières chez les uns et chez les autres, et donner des envies en fait de se poser. Et de... Ben voilà, j'aurais fait mon boulot quoi.
Voilà, servi ta mission.
Voilà. Super. Merci beaucoup.
Merci à toi Stéphane, à bientôt.